Nova. Dans le genre de...
Quel genre?
Grande gueule.
Icône.
Dans le genre...
Femme fatale.
Ouais, ce genre-là, ça me les casse.
Puissant.
Masculin.
Séducteur.
Séductrice.
Féminin.
Agressive.
Raffinée.
Dominatrice.
Viril.
Macho.
C'est pas mon genre.
Dans le genre, l'émission qui vous plonge au cœur de l'identité et des genres. Une émission de Géraldine Saratia.
Myriam Leroy, est-ce que vous vous trouvez féminine ?
Non, pas trop. Bah, en fait, je crois que je ne sais pas ce que ça veut dire être féminine. Je pense que de temps en temps, je joue bien le jeu du féminin. Mais c'est un jeu, c'est une pièce de théâtre. Et moi, quand je suis chez moi, quand je lis, quand j'écris, quand je suis avec mes amis, quand je fais mes courses, je me sens pas une femme. Je me sens très rarement une femme, en fait. Juste dans le jeu de la séduction, je crois.
Bonsoir et bienvenue dans cette 4e saison de Dans le genre. C'est notre 49e épisode et nous avons ce soir rendez-vous avec Myriam Leroy. Myriam Leroy est journaliste, écrivain, auteur de théâtre, féministe engagée. Elle vit et travaille à Bruxelles. Elle est spécialisée en culture et société, fait ses débuts dans de très nombreux médias belges, presse écrite, radio, télé, on l'entend sur la RTBF, le soir, sur Pure FM. Elle se fait remarquer pour son ton, cash, parfois cinglant, son humour aussi, et sa façon de déconstruire le patriarcat, le sexisme et d'interroger les normes de genre. Le genre, la classe sont également au cœur du travail de Myriam Leroy, écrivaine. On l'a découvert voici 2 ans avec Ariane, un formidable premier roman, cru, cruel et féroce, comme peut l'être l'adolescence. Il racontait l'amitié toxique de 2 jeunes filles et leur malaise face aux normes sociales et de genre qui s'abattaient sur elles et aux défis qui s'imposaient à elles, devenir une femme. Elle revient cette rentrée avec un 2e roman, Les yeux rouges, qui narre une violence de genre des temps modernes, le cyberharcèlement. C'est une expérience que Myriam Leroy a vécue, puisqu'en 2013, elle était chroniqueuse sur Canal+, une émission d'Ali Badou, et elle avait fait une chronique télé contre Dieudonné. Elle avait alors subi un raid, plus de 10 000 internautes s'étaient abattus sur elle. Alors dans le livre, ça commence non pas à la télé mais sur Facebook, la narratrice, journaliste, est contactée par un certain Denis. Il veut l'interviewer pour son blog, il manie comme elle l'humour, il l'admire, et il commence par la dragouiller, un peu lourdement.
Ça y était, il avait enfin débusqué ce qui dans mes yeux l'avait tant interpellé. C'était leur côté légèrement tombant, même lorsque je souriais. Cet air qui disait que derrière l'allure insouciante d'une belle fille de mon âge subsistait une gravité, un adorable stigmate de malheur résigné. Denis était remué par sa découverte. Il sentait qu'il détenait peut-être la clé de nos conversations à venir. Il m'invitait à en lui dire plus sur moi, à ne pas rester sur ma réserve. Pour m'y inciter, il pouvait à nouveau ouvrir les hostilités et se dévoiler lui-même encore un peu, puisque tout au monde, il adorait le chocolat. Il se surnommait d'ailleurs l'homme chocolat, clin d'œil à Olivia Ruiz, qu'il trouvait très mignonne. Si je voulais le faire succomber, c'était très simple. Il fallait que je lui prépare une fondue au chocolat, avec des fraises. Il en salivait déjà rien que d'y penser.
C'était Myriam Leroy qui lisait un extrait des Yeux rouges. Très vite, le piège se referme sur la narratrice. Denis la harcèle et la jeune femme est victime d'un raid.
Denis avait essayé de m'appeler pour recueillir mes impressions sur ce tsunami d'étrons qui s'abattait sur ma tête. Mais sans surprise, je n'avais pas décroché ni même donné suite au message vocal qu'il m'avait laissé et qui n'était en rien discourtois. Cela ne l'avait pas étonné, rien de toute cette séquence ne l'étonnait d'ailleurs. Le seul courage qu'il me prêtait encore était celui d'oser me montrer au monde avec la tronche que j'avais.
Les yeux rouges sont au final ceux des pleurs, ceux de la dépression de la narratrice qui s'enfonce peu à peu et finit par ressembler au portrait que les autres font d'elle. Alors je ne dévoile pas la fin de ce roman, mais que je vous encourage à lire, hein, c'est un livre fort, éprouvant, qui continue de s'insinuer en vous longtemps après. Mais pour l'heure, retour sur le parcours et l'enfance de Myriam Leroy en Belgique. Ce soir, je vous invite à passer 1 heure dans le genre de Myriam Leroy.
Nova. Dans le genre. L'enfance.
Alors moi je suis belge, je suis née en Belgique, dans une petite ville qui s'appelle Ottigny, qui n'a qu'un hôpital et une gare en fait, en gros. Dans une famille...
C'est où cette ville?
Oh, c'est à 30 kilomètres de Bruxelles.
Ok, voilà, constitue.
Mais la Belgique est très petite, mais malgré tout, quand on est à 30 kilomètres de Bruxelles, on a l'impression que c'est très loin, qu'on est vraiment très très fort en province, très perdu. J'ai grandi dans une province qui s'appelle le Brabant Wallon, qui est la province la plus riche de Belgique, même s'il y a des pauvres, même s'il y a de la classe moyenne. Moi, je viens d'une famille de la classe moyenne plutôt très moyenne, enfin voilà, sans trop de problèmes d'argent, mais sans faste, quoi, sans luxe. Un père cheminot, une mère au foyer, des parents très cathos. Surtout mon père, ma mère un peu moins. Mon père allait à la messe toutes les semaines. Il y va toujours, peut-être un peu moins qu'avant, mais il y va encore très souvent. Donc quand j'étais petite, j'étais obligée d'aller à la messe toutes les semaines aussi.
Ouais, ouais.
Et c'était l'enfer, l'enfer sur terre. Je prenais mon Game Boy, mon jeu électronique. Voilà, c'était une famille avec des valeurs assez traditionnelles, une vision un peu conventionnelle quand même de ce que doit être une femme. Ouais,
une femme, un homme, une famille.
Ouais, ouais. Une fille. Ouais, très tradit, mais des parents assez âgés aussi, donc je pense que ça a joué.
Vous en eu tard ?
Ouais, j'étais, j'ai toujours eu les parents les plus âgés par rapport aux copains de ma classe, et même plus tard. Alors aujourd'hui, je pense que ça ferait plus tiquer personne d'avoir des parents aussi âgés, mais à l'époque, c'était quand même vraiment très rare, quoi. Donc on était vraiment séparés de plusieurs générations, en fait, mes parents et moi. Et ça a donné lieu à pas mal d'incompréhensions. Pendant mon adolescence, on a eu une relation très conflictuelle. Maintenant, ça va beaucoup, beaucoup mieux. Mais voilà, c'était pas facile parce que moi, j'avais pas envie de la vie qui semblait me proposer, quoi. Que le milieu. Enfin voilà, j'avais pas envie de ce qui semblait m'attendre d'après ce qu'il projetait sur moi.
Votre père, vous disiez, donc en cheminot, qu'il allait à la messe, par rapport à ses tradis, par rapport aux normes du masculin, il était situé comment, cet homme ?
Mais c'est assez étrange parce que mon père comme ma mère sont à la fois, ils m'ont élevé très fort dans les normes du masculin et du féminin, mais physiquement pas du tout, ils le sont pas du tout en fait. Mon père est très androgyne, ma mère est très androgyne aussi. Mon père était pas quelqu'un que je pourrais qualifier de viril. C'était pas un homme musclé, il faisait pas ce que les pères, enfin il faisait pas de sport, il regardait pas le foot, il faisait pas son journal avec les pantoufles sur la table, si pour autant qu'on puisse assimiler ça à de la virilité. Mais c'était vraiment pas du tout, c'était un peu l'anti-Mad Men en fait, mon père. C'était, mes parents étaient plutôt des êtres, et sont des êtres relativement asexués. Ouais, physiquement et même dans. Voilà, on n'a jamais parlé de sexe à la maison, par exemple. Tout ce que je sais sur le sexe, je l'ai appris dans les livres ou dans les films. Enfin, j'ai dû faire mon éducation par moi-même, quoi. Mais eux, non, c'était assez tabou, en fait, tout ce qui était sexe.
Parce qu'en parallélisme, entre eux, vous dites ils étaient androgynes, tous les deux. Donc, assez asexués, assez androgynes, assez en miroir, comme ça.
Oui, ça. Mon père a un physique assez féminin, des traits très fins, il n'a pas une grosse voix, il est assez maigre. Ma mère est une belle femme, mais elle est très androgyne. Elle ressemble peut-être un peu à un petit garçon encore aujourd'hui, avec des cheveux courts. Les cheveux courts dans la famille, ça a été quelque chose. Moi, j'ai porté les cheveux courts jusqu'à 13 ans. J'avais des cheveux courts, des lunettes, des bermudas. On m'a appelée jeune homme pendant une partie de mon adolescence et toute mon enfance. Donc, il y avait quelque chose de pas du tout genré, en tout cas, dans l'esthétique familiale.
Voilà. Mais après, dans les valeurs qui étaient transmises, ça l'était.
Ouais.
Ouais.
Ouais. On me disait souvent, si tu sais pas coudre, tu trouveras pas de mari. Si tu sais pas cuisiner, tu trouveras pas de mari. Ouais. Et ça tombait bien parce que moi j'avais envie de tout sauf d'un mari. Donc voilà, je les envoyais gentiment se faire foutre. Mais pour eux, ça leur semblait vraiment très grave, quoi. Je préparais pas mon avenir en n'apprenant pas les recettes de base qu'une femme. Enfin, voilà, tenir un ménage, c'était très important pour eux. Et moi, c'était vraiment la dernière chose que j'avais envie de faire sur Terre.
Alors on va écouter un peu de musique, un premier titre que vous avez choisi pour nous, qui est lié un peu à cette époque de votre enfance ou adolescence, c'est Janet Jackson, That's the Way Love Goes, sur Nova.
Like a
le genre de
Myriam Leroy.
Alors Myriam, Janet Jackson, c'était un hit de l'adolescence, c'était une...
Ouais, j'avais, je crois que c'était en 93, en 93, j'avais...
En 93, ouais, ouais, bah ça fait longtemps. Oui.
J'avais 11 ans et ça a été un émoi, un de mes premiers émois sexuels. C'était,
ah bon
cette chanson, ouais, cette chanson et ce clip, en fait, qui transpire, qui dégouline, qui est ultra sensuel. Et j'avais envie de vivre dans ce clip, en fait. Ça avait l'air complètement génial.
Ah oui, pas dans la maison plus traditionnelle catholique.
Non, une quatre façades avec du gravier, un break et un chien. Non, j'avais envie de vivre dans un clip de Janet Jackson. Et puis, ce que j'adore dans cette chanson, c'est qu'elle est lente, en fait, et qu'elle permet de danser lentement. Alors, j'adore danser, mais j'adore danser très lentement. Je trouve qu'il n'y a rien de mieux pour mener à quelque chose, finalement.
Ah ouais. On parlait de vos parents, on parlait un petit peu de vous aussi. Vous disiez que vous aviez eu les cheveux courts. Vous étiez quel type d'enfant et puis après d'adolescente, vous ?
J'étais très solitaire. Je passais ma vie...
Vous étiez enfant unique, vous ?
Non, j'ai une sœur qui a un an et demi de moins que moi, mm-hmm. qui est un peu mon miroir inversé. Comme ça, elle est hyper expansive. Elle a un talent social incroyable que je n'ai pas du tout. Elle a des amis par centaines. Moi, j'ai toujours les mêmes amis depuis que j'ai 15 ans, en fait. C'est les amis que j'ai rencontrés à l'école secondaire. Je les ai toujours gardés. Je pars toujours en vacances avec eux aujourd'hui. Ouais. Moi, j'étais calme, très silencieuse, et je passais mes journées à lire, en fait, toute seule. Je me souviens d'un anniversaire que mes parents m'avaient organisé, je pense que je devais avoir 8 ans, un truc du style. Mon père avait organisé un jeu de piste dans le jardin, et pendant que tous les enfants jouaient, moi je m'étais barrée en douce pour aller lire dans ma chambre, donc j'avais laissé les gamins s'amuser de leur côté, et ça m'intéressait pas du tout, moi je voulais juste lire.
Donc solitaire, et par rapport justement à ce dont on parle, c'est-à-dire les normes du féminin. D'ailleurs, vous avez sorti un roman il y a 2 ans, moi, que j'ai beaucoup aimé, qui s'appelle Ariane, hein, qui est assez cru, qui est assez cruel, comme peut être l'adolescence, et qui parle aussi comme ça d'une amitié toxique entre deux jeunes filles qui sont confrontées aussi au malaise et aux difficultés de ce moment particulier où les normes sociales et les normes de genre tombent dessus. Alors vous étiez comment à cet âge-là ?
En fait, quand j'avais 12 ans, je ressemblais à un petit garçon, j'avais les cheveux courts, les lunettes, j'étais tellement blanche que j'en étais presque verte. Enfin voilà, je ne maîtrisais aucun code de la séduction et de l'intégration et de la popularité.
Mais vous aviez envie d'être un petit garçon ou
Mais je m'en foutais, en fait, foutez. Complètement. Mmh. Le problème, c'est que je tombais amoureuse toutes les 2 secondes. Je tombais amoureuse de tous les garçons qui passaient à ma portée. Et j'ai bien dû remarquer à un moment donné que comme je ne jouais pas le jeu de la séduction, que je n'étais pas jolie, pour eux, j'étais un copain, quoi. J'étais même pas une copine, j'étais un copain. Et ça marchait pas. Et j'avais envie de sortir avec des garçons, j'avais envie d'embrasser des garçons. J'étais très pressée de faire mes premières expériences, mais eux voulaient pas. Donc, à un moment donné, j'en ai vraiment eu marre. Et je me suis dit, bon, ben voilà, il va falloir faire quelque chose. Et il va falloir se conformer à ce que je lis dans les magazines.
Donc, adopter ses codes.
Adopter
c'était
ses
un truc
codes.
Un peu rationnel dans votre tête. C'est-à-dire,
c'était
il va
tout
falloir
à fait rationnel.
Faire ça.
Oui, c'était pour parvenir à mes fins. C'est-à-dire pour avoir des amoureux. Et donc, je me souviens que l'été de mes 12 ans, j'ai laissé pousser mes cheveux. J'ai outre-bronzé. J'étais vraiment noire. Et puis, j'ai décidé d'acheter des fringues d'ado, quoi. Et puis, des fringues d'enfant. Et à la rentrée des classes, ça y est, c'est bon, j'avais compris le truc. Et eux l'avaient compris aussi. Et c'est là que ça a commencé à marcher pour moi, du point de vue de la séduction.
Mais c'est un truc que vous avez adopté quasiment comme une performance.
Tout à fait.
C'est quelque
comme
chose qu'il faut habiter, ouais. qu'il faut jouer à ça pour pouvoir séduire, avoir des relations amoureuses, sexuelles, tout ça.
Ouais.
Mais pas quelque chose que vous aviez, que vous sentiez de l'intérieur.
Non,
en fait.
C'était du pur mimétisme. Je lisais beaucoup de Hockey Podium, de 20 ans, de Biba, de magazines pour jeunes filles. Et je copiais, quoi. Je copiais ce qui était dit dedans. Et alors, il y avait beaucoup aussi de conseils aux jeunes filles, en fait, dans ces magazines. Comment ne pas être dégoûtante, comment attirer les garçons, ne pas trop parler. Donc, je me suis vraiment conformée au code du féminin.
Est-ce que vous aviez une fascination pour ces codes, comme dans Ariane, justement, une des deux personnages a une espèce de fascination comme ça pour une des filles qui est très belle, qui elle a l'air justement de maîtriser très naturellement tous ces codes-là, en fait
Oui, bien sûr, ça me fascinait. Et en même temps, j'ai remarqué qu'assez vite, j'imitais très bien, en fait. Que j'arrivais à faire bien la fille sexy de 14 ans. Et comme ça marchait vachement bien, je les ai intégrés de manière assez naturelle, ces codes, et j'ai eu une adolescence assez facile de ce point de vue-là. J'étais la fille qu'on draguait, et en fait, c'était le but de ma vie, hein, c'était de me faire draguer. Je traînais dans les centres commerciaux pour me faire draguer, j'allais dans des soirées pour me faire draguer, c'était vraiment ce que je recherchais.
D'accord, donc ça a été assez facile finalement, quoi.
Ouais, ça a été assez facile. C'était toute une batterie de codes vestimentaires, de postures physiques et même de conversationnelles. Et je pense les avoir intégrés avec pas mal de facilité aussi parce que j'avais énormément lu. Je m'étais beaucoup documentée, j'avais vraiment étudié ma matière et je l'avais bien régurgitée, cette matière.
On écoute un peu de musique. Un autre titre que vous avez choisi pour nous, c'est un titre de Diamanda Galas, Gloomy Sunday sur Nova. Diamanda Galas sur Nova, un choix de notre invité. Alors Myriam Leroy, pourquoi ce choix ?
J'avais entendu cette chanson dans un spectacle de danse contemporaine à Bruxelles qui était très beau. Je ne connaissais pas le titre, je l'ai chasamé pendant que les danseurs dansaient. Et je pensais que c'était un homme, en fait, en l'écoutant. Et puis pas du tout, en fait, c'est une femme. Mais j'adore les femmes qui chantent comme des hommes. J'adore les hommes qui chantent comme des femmes. Les voix très aiguës et très modulées pour des hommes et des choses très tragiques et très douloureuses, presque sanguignolantes pour les femmes.
Ouais. Pourquoi ça vous émeut particulièrement ?
Ouais, ça m'émeut. Ouais. Mais naturellement, je vais vers ce type d'artiste. Je ne sais pas trop pourquoi, je ne sais pas trop l'expliquer, mais j'aime bien.
On parlait de votre adolescence. Est-ce qu'il y a eu des figures d'identification dans la pop musique, dans la littérature, qui vous ont aidé un petit peu à... pas vous construire, mais en tout cas exprimer.
Mais en fait, non, pas du tout.
Pas du tout.
Pas du tout. Et c'est un regret. J'avais pas de rôle modèle féminin.
Non.
J'ai beau me creuser, je vois pas bien qui on avait dans ces années-là, dans les années 90, quand on était adolescente, à part des héroïnes de séries télé. Moi, j'avais pas la télé, donc de toute façon, ça passait pas par moi. Mais non, j'ai pas eu ça. Et ça m'a vachement manqué, je crois. Moi, je m'identifiais fort à MacGyver, par exemple.
Je trouve. Pourquoi ?
Parce que moi aussi, j'aimais bien inventer des trucs et trouver des solutions et faire une bombe à retardement avec un vieux chewing-gum et une plaquette de chocolat. Ouais, mais les stars auxquelles je m'identifiais, c'était des hommes. Ouais, et alors, j'y voyais pas trop de problèmes. Enfin, en fait, il y en a aucun de problème.
Non, pas du tout.
Mais c'est rigolo parce que j'ai un ami qui a lu mon premier bouquin, Ariane, donc, qui met en scène deux adolescentes. Il m'a dit, ouais, c'est sympa ton truc, mais bon, tu comprends bien, moi je suis un homme, je ne sais pas m'identifier à deux adolescents, donc je suis complètement passée à côté. Et je dis, ah oui, bien sûr, je comprends bien. Et puis, en y réfléchissant, je me dis, ben non, je comprends pas du tout. Nous, on a dû grandir avec quasi que des références masculines dans la littérature, dans la BD, dans, même souvent
mais
dans
nous,
la musique.
On a été des hommes, on s'est identifié tout le
temps. Mais complètement, on n'a pas eu ce problème.
Bien sûr.
Et donc, j'ai décidé aujourd'hui de lire, d'écouter, de regarder quasi plus que des trucs faits par des femmes. Je ne sais pas si c'est réellement une décision consciente, mais je remarque que les trois quarts des bouquins que je lis, c'est des bouquins d'écrivaines et pas des bouquins d'écrivains. J'en avais marre, je crois, de voir le monde à travers des yeux d'hommes. Je voulais savoir à quoi ça ressemblait l'expérience sociale de la féminité à travers un œil féminin.
Dans le genre de...
Quel genre ?
Grande gueule.
Icône.
Élégant.
Dans le genre.
Femme fatale.
Ouais, ce genre-là, ça me les casse.
Puissant.
Masculin.
Masculin.
Musclé.
Séducteur.
Séductrice.
Féminin.
Agressive.
Raffinée.
Dominatrice.
Viril.
Vous êtes toujours sur Nova, vous êtes toujours dans le genre de l'écrivaine et journaliste belge Myriam Leroy. Elle vient de sortir Les yeux rouges au seuil. C'est un roman glaçant, l'histoire d'un piège qui se referme sur la narratrice, une journaliste victime de cyberharcèlement. On va en parler dans la deuxième partie de cette émission. Mais avant, on écoute un peu de musique. C'est un titre que Myriam a choisi pour nous et c'est Robin with Every Heartbeat sur Nova. Voilà, c'était Robin sur Nova. On est toujours avec l'auteur et journaliste Myriam Leroy. Vous sortez Les yeux rouges. Et comme je le disais, vous êtes également journaliste. Et je crois que vous y tenez à ce statut aussi. Vous avez fait vos débuts dans de nombreux médias belges, autant en presse écrite qu'en radio, qu'en télé, sur la RTBF, Pure FM. Enfin, vous avez vu pas mal de chroniques. Vous faites également pas mal d'articles dans des revues comme Wilfried ou des choses comme ça. J'avais envie, comme on est dans cette émission, qu'on aborde un peu votre travail sous l'angle du genre, c'est-à-dire être une journaliste, être une femme, ça a été quoi pour vous ? Est-ce que comment votre genre a influé votre travail au bon et au mauvais sens du terme ?
Dans le mauvais sens du terme, c'est qu'on m'y renvoie sans cesse à mon genre, alors que bien sûr, on regarde le monde de sa fenêtre et quand on est une femme, on bénéficie entre guillemets d'un savoir situé parce qu'on vit des choses que vivent les femmes et souvent des choses difficiles. Mais j'avais pas l'impression d'être une femme journaliste, j'avais l'impression d'être une journaliste tout court.
Bien sûr.
Mais non, c'est toujours pas évident d'être une femme journaliste, déjà parce que dans les études de journalisme, il y a plein de meufs, mais une fois sur le marché du travail, il y en a beaucoup moins, et vers 35 ans, elles désertent tout le métier. D'ailleurs, c'est vers 35 ans que j'ai décidé d'en faire de moins en moins et de faire beaucoup plus d'écrire de
fiction. Parce qu'elles n'acceptent pas des postes de pouvoir ?
Je pense que c'est ça, parce que il n'y a pas de rôle modèle féminin journaliste. journalistique, en tout cas en Belgique, le milieu est très très petit. Je pense que tous les quotidiens belges francophones sont dirigés par des hommes. La plupart des magazines généralistes sont dirigés par des hommes. Les cadres et les chefs de rubrique, c'est des hommes aussi. Et moi, en tout cas, j'ai pas vu beaucoup de possibilités d'évolution dans ma carrière. Je briguais pas des postes à responsabilité, mais j'aurais bien aimé peut-être un peu, ouais, monter, peut-être être chef de rubrique un jour, ou avoir ma propre émission qui soit pas diffusée à 6h du matin les jours fériés. Mais plus je grandissais, plus je vieillissais, plus je me rendais compte que ça allait pas m'arriver, en fait. Que les médias, c'était en Belgique comme en France, un boys club où il y avait un système, une logique de cooptation. Et que les femmes étaient systématiquement renvoyées plutôt à des rubriques lifestyle, mode, beauté. Récemment, on m'a proposé une émission sur une radio belge et on m'a dit « Ouais, on a pensé à un truc pour toi. » Moi, ça me bottait vachement, fait, de travailler pour cette radio.
Ouais,
ouais, un truc maquillage, mode, fringues, beauté. Mais enfin, c'est tellement, mais tellement loin de mes intérêts.
C'est-à-dire qu'on reste dans des zones allouées, stéréotypées, féminines.
Oui,
en
c'est
fait.
Ça, voilà. L'espace domestique, ce genre de trucs. Donc, j'étais...
L'apparence.
Ouais, ouais. J'étais tellement désespérée parce qu'en fait, si tu t'intéresses même 30 secondes à ce que je fais, tu vois que c'est vraiment pas du tout les sujets vers lesquels je vais. Quoi. Et puis, ça fait quand même un bout de temps que je bosse maintenant, donc il n'y a vraiment pas d'erreur possible. En fait.
Vous avez eu du mal à les imposer, ces sujets-là, parce que... ou pas ? Parce que justement, quand on est entouré de, d'hommes, justement responsable, chef de rubrique, rédacteur en chef, tout ça, ils ne voient pas forcément le monde avec le même prisme, même si eux, ils ont l'impression que c'est de l'objectivité journalistique. Est-ce que vous avez du mal à imposer les sujets qui vous intéressaient
Ouais, en fait, je sais que ça les agace pas mal quand je propose une lecture féministe. Je travaille beaucoup en journalisme culturel et je propose souvent une lecture au moins un tout petit peu féministe ou sur le prisme du genre.
Oui, vous aviez analysé les paroles de Damso, par exemple.
Oui, c'est ça. Et je sais que ça en agace beaucoup, quoi, qu'ils me trouvent prosélyte ou communautariste, et ils estiment que ça n'a pas grand-chose à faire dans des émissions ou des revues culturelles, qu'on n'est pas là pour faire de la politique, alors qu'évidemment la culture est éminemment politique et tout est politique, tout est traversé par la politique. Donc je sens qu'il y a quand même eu une résistance, elle n'est pas malveillante, elle n'est pas officielle, elle n'est pas déclarée, mais c'est pas toujours évident d'imposer ces sujets-là. Et alors l'histoire de ma vie professionnelle, moi c'est assez simple, en fait j'ai toujours eu du boulot, parce que les mecs font leurs équipes, puis ils se rendent compte à la fin qu'ils sont que entre mecs, et ils se disent « Merde, on va se faire... »«
Merde Myriam, en fait, tu pourrais pas venir. »
Voilà, et donc on m'appelle toujours en me disant « Myriam, on cherchait une femme, et on a pensé à toi, donc voilà, bienvenue dans l'équipe. » Et c'est comme ça que j'ai eu tous mes boulots, c'est parce qu'ils cherchaient une femme, parce qu'ils n'en avaient pas, donc je suis la femme de service, et c'est comme ça que je bosse. Donc finalement, j'ai bénéficié, entre guillemets, du sexisme dans les médias pour faire mon trou, quoi. Mais on est tellement, tellement peu nombreuses, notamment à la radio, des femmes à la radio, des voix féminines à la radio, en lead, qui dirigent une tranche horaire, il y en a tellement peu.
Ouais. Alors là, vous sortez un livre qui s'appelle « Les yeux rouges », cette rentrée au Seuil, c'est l'histoire d'un cyberharcèlement, c'est une journaliste qui accepte l'invitation d'un mec sur Facebook qui s'appelle Denis, qui est un peu fan d'elle. Et puis, très vite, il va y avoir une escalade. Et votre livre raconte ça de manière très précise et très glaçante. Avant qu'on rentre dans cette thématique, je voulais juste vous interroger sur la forme littéraire du livre, en fait, qui est assez particulière, puisque en fait, la narratrice, finalement, retranscrit les messages de Denis, qu'on n'a jamais, nous, brut, quoi, comme lecteur. Et en même temps, la narratrice n'est que finalement que le regard que ce que le regard des autres fait d'elle. Cette forme là vous avez mis du temps à la trouver?
Ça me fait tellement plaisir que vous posiez cette question, parce qu'on ne me la pose jamais, alors que c'est ma grande fierté par rapport à ce bouquin, c'est d'avoir un jour trouvé ce dispositif narratif. Je voulais écrire une histoire de harcèlement depuis très longtemps, parce que le harcèlement est dans ma vie depuis très longtemps.
Oui, c'est quelque chose qui vous est arrivé, vous allez nous raconter. Mais, ouais.
Mais je trouvais jamais la bonne manière de raconter une histoire de harcèlement. Soit j'ouvrais des vannes d'incontinence émotionnelle et je trouvais ça gênant, je trouvais que c'était une prise d'otage du lecteur. Soit, alors j'étais très très loin et cette distance n'était pas juste par rapport à la douleur vécue dans ce type de situation. J'ai essayé en jeu, en tu, en il, au passé, au présent. Et puis, je sais pas comment, on sait jamais comment, en fait, les choses se débloquent, comment on a une idée. L'idée est arrivée de ne produire que du discours rapporté. Et donc, que cette narratrice regarde les autres la regarder. on n'a jamais accès à son intériorité et toute la, la douleur supposée est hors champ. Ouais. Ce qui permet au lecteur de se faire sa propre idée sur la douleur que peut ressentir la narratrice. Et c'était pour moi une... Enfin, tout s'est débloqué à ce moment-là. Une fois que j'ai trouvé ce dispositif, même si je planchais sur un sujet pareil depuis des années, là, le livre a été écrit très, très vite. En quelques mois, il est sorti. Il a vraiment jailli.
J'ai trouvé la façon, en fait.
Ouais. Et une fois que la façon a été trouvée, j'ai pu mettre les pieds dans les étriers et partir au grand galop.
Ouais, et puis c'est aussi comment les mots qui sont proférés sur cette femme, finalement, vont la modeler et la transformer. Enfin, je vais pas dévoiler la fin du livre, mais en fait, où elle va devenir aussi, ce discours-là.
Oui,
en fait.
Tout à fait.
Donc, comment on est aussi, l'influence des injures sur soi.
Et à force d'être défini par les autres et d'être défini de cette manière-là, on finit par s'y conformer, finalement, et devenir le cliché qu'on fait de soi. Ça me semblait juste de faire les choses comme ça.
On écoute un peu de musique avant de poursuivre sur ce sujet. On écoute un rappeur de Bruxelles qui est super doué, qui a écrit d'ailleurs La loi de Murphy avec Angel. Comment ça se prononce, que je dise pas bien ?
Vinsanao.
Et Chasse et pêche sur Nova.
Cette petite gazelle, bergée en haut d'un rocher, est un oréotrague.
Bon, je suis chez moi, là.
C'est un bovidé, comme le buffle et comme toutes les antilopes.
Entre moi, celle-là.
Voilà une grande famille qui représente pour 70 espèces, essentiellement de la vie
qui vient en fait.
Je me suis retrouvé sur Google à taper, je m'emmerde. Là, je suis tombé sur un blog de gens qui s'emmerdent. On a grillé des psychotropes en s'échangeant, je m'emmerde. Ma psy m'a dit c'est bien, tant que c'est toi qui choisis quand tu t'emmerdes. Du coup, je vais voir des concerts de laptop et je t'avoue que je m'emmerde. J'irais bien voir du gros hip-hop, mais y'a tellement de merde. Dans les grosses boîtes à salopes, un moment je m'emmerde. Je me suis donné à l'alcool et au lendemain de veille. J'ai des dents de merde et moins de fric que d'envie de sexe. Avec la crise de boucaqué par les brancardiers, faut blaguer. Faut tout regarder pour pouvoir jouer le blasé. Dans ma poche, le spectre du fantasme de la vie d'un homme dé. Assez fané, j'arrose les journées qui assèchent avec un peu d'eau de vie. Ma schizophrénie fournira la Libye s'il y a mort d'homme. On était deux devant, c'est pour nous. Levions le coude au métronome. Moi et mon ego, la gueule dans des platanes. Qui veut me défendre? La belle pute à l'écran ou cette belle coquine qui tue sur le parking d'une boîte à viande. Où mon artère m'aurait kidnappé, bien sapé. Assez rincé que pour se taper n'importe quel aspect. Pour pas changer nos lendemains de veille, on goûtait l'acétone. Et dans les chiottes, j'ai expédié ma vie plus de 3 motilium. Mais je sais toujours pas pourquoi ce cocard. Ai-je sauvé une vie ou peut-être juste mon whisky coca? Si c'est pas dans l'extrême, putain, je m'emmerde. La même soirée en sobre, je crois que tu m'emmerdes. Tes plans trop hype, en fait, ça m'emmerde. Si Boston a perdu, Kobe m'emmerde. Tu m'as tagué sur Facebook, peut-être que tu t'emmerdes. Un pote se fait ton ex et ça t'emmerde. Tu baisses plus, tu fais l'amour, tu la fermes devant chasse et pêche. J'aimerais plus sourire, mais là je suis raide, inerte. On me secoue, j'essaye de respirer, je ressens le souffle d'un des brancardiers. Je me rends compte que je suis pas ready, mec. J'ouvre les yeux, ce n'était qu'une vieillerie de rêve. On s'occupe avec de petites tachycardies qui nous feront rire lors de prochaines soirées tardives, si chères à nos plannings. Moi je dis magie, s'embrouiller, pouvoir revenir, dire valise. Sans fumer, plus rien piger, dire bad trip. Dolo, c'est des ravaux que tu ressors, une amitié néfaste. T'écrases le cul d'une clope, d'une main crispée que tu vois bien dans sa face. Chez toi, tu retrouves toutes tes boîtes et celles de chez Arthur. Tu zappes sur Kiss Movies après qu'une conne ait gagné la voiture. Abattu, apathie, tu causes à tes non-dits. Un dialogue en prose entre le fond de tes couilles et ton nombril. J'assombris le ciel de mes voyages introspectifs. Après deux gros sticks, merde, est-ce que ma vie est triste?
Pour le reste, il y a une grande diversité chez ces végétariens réputants.
Dans le genre.
Dans le genre.
De.
Myriam Leroy.
Vous sortez un livre qui s'appelle Les yeux rouges, cette rentrée. Alors ce livre, il s'inspire en partie, je pense, d'expériences que vous avez vécues, parce que vous, vous avez été victime de cyberharcèlement plusieurs fois, je crois. Enfin, une première fois, il y avait une chronique que vous aviez fait sur le plateau d'Ali Badou en 2013, assez virulente contre Dieudonné, puis vous aviez subi un raid immédiatement, plus de 10 000 messages, enfin, des trucs vraiment atroces, avec des photomontages, enfin, des insultes, tout ce qu'on peut imaginer, des éjaculations, enfin, tout ce qu'on peut imaginer. et je crois que ça vous est arrivé plus encore, en fait, ensuite, d'être harcelé
Disons que la partie la plus spectaculaire de mon expérience de harcèlement, c'est ce raid de 2013. Mais avant, j'avais déjà des fous furieux qui étaient comme des boulets accrochés à mon pied. Et puis après, ça continue. Quand on est une femme journaliste, et quand on est une femme tout court, qui revendique un peu sa place dans l'agora, mais même quand on ne la revendique pas, en fait, simplement quand on apparaît à la connaissance des gens, on risque d'être la cible de
c'est-à-dire quand on ne s'intéresse pas justement au sujet un petit peu dont vous parliez tout à l'heure, c'est-à-dire la mode, la beauté, machin, mais qu'on parle de politique, qu'on déconstruit le patriarcat, qu'on dit des choses, en fait, là, on prend un risque.
Ah oui, clairement, on prend un risque, et même parfois en ne l'ayant pas choisi. Je pense à Marie Laguerre, cette jeune Parisienne qui a reçu un coup de poing d'un inconnu dans la rue. La vidéo a été diffusée largement sur les réseaux sociaux. Depuis, elle se prend des insultes en permanence, parce qu'elle a juste décidé que ça n'allait pas et qu'elle allait communiquer sur sa mésaventure et sur ce fait divers. Donc même, il suffit d'être protagoniste de faits divers pour être harcelée. Parce que, en fait, on nous dit souvent aux femmes harcelées, mais tu l'as pas un peu cherché?
C'est-à-dire comme dans la vie réelle, en fait, on retrouve le même victim blaming de la vie réelle, c'est-à-dire tu étais peut-être habillée un petit
peu... C'est ça, et donc l'équivalent de la mini-jupe pour la fille qui est violée dans la vie physique, il y a « t'as pas un peu trop ouvert ta gueule, tu l'as pas un peu cherché, t'aurais pas dû répondre, tu devrais pas aborder ce genre de sujet ». Et donc de fil en aiguille, il y a beaucoup de femmes qui désertent les réseaux sociaux et qui désertent aussi tous les sujets un peu politiques dans les médias.
C'est un espace très genré aussi, les réseaux sociaux, c'est-à-dire on a l'impression que quand c'est virtuel, on a comme ça, justement votre livre, je trouve, il replace ça aussi au niveau de l'incarnation, parce qu'on dit cyberharcèlement, on comprend bien que ça attaque le corps,
bien sûr.
C'est quelque chose qui est réel, en fait.
Oui, c'est pour ça que ça s'appelle les yeux rouges, parce que j'avais envie de ramener ça à quelque chose de
très physique.
Parce qu'on dit toujours harceler sur Internet, mais non, le harcèlement, il est dans la vie des gens. Et même quand Internet est éteint, quand t'es harcelé, c'est comme un nuage noir qui te suit. Quand tu fais tes courses, quand t'es dans le métro, quand t'es dans ton lit, c'est partout, c'est en toi, c'est dans ton corps.
Donc les mécanismes, c'est ceux d'un isolement qui grandit, puisqu'effectivement l'entourage minore dit « bon, peut-être que t'as fait, tu l'as un peu cherché » ou « peut-être tu pourrais ne pas regarder » ou il y a des choses comme ça. En fait, c'est quoi les mécanismes qui conduisent à... Parce que vous dites, le harcèlement peut conduire à la folie.
Oui, il peut conduire à la folie parce que c'est une douleur relativement impartageable par rapport aux gens qui ne le vivent pas. On se rend compte maintenant qu'il y a beaucoup de gens qui le vivent et beaucoup de femmes qui vivent le harcèlement, mais c'était pas des expériences dont on parlait avant, parce que je pense qu'on en avait peut-être un peu honte et qu'on se disait que si on s'en ouvrait, ça allait nourrir le troll. Il y avait toujours cet adage « don't feed the troll » qui prétendait que si on répondait pas ou si on n'en parlait pas, ça allait pas nourrir la bête. Et en fait, on peut très bien ne pas répondre pendant des années et que la bête soit vraiment repue et qu'elle vienne te ronger les mollets après. Mais en fait, pour la plupart des gens, être harcelé sur Twitter, c'est un peu comme être tabassé par un hologramme, quoi. Donc c'est complètement abstrait et ils s'imaginent qu'on peut faire abstraction de ça. Or, je sais pas qui arrive à faire abstraction de ça. Moi, j'y suis pas parvenue. Et
comment vous avez fait alors?
Beaucoup de médicaments, beaucoup de thérapeutes.
Dépression, quoi. Enfin, un truc vraiment. Ça bat.
Je ne sais même pas si je me suis laissé le loisir de faire une dépression, parce que c'était tellement tendu, en fait, comme situation que. Non, c'est surtout beaucoup, beaucoup d'angoisse et beaucoup de désespoir par rapport à ce monde qui autorise ce type de parole. Et la honte sociale est toujours du côté des victimes et pas encore du côté de ceux qui profèrent des paroles de haine en roue libre sur Internet.
Est-ce que vous pensez qu'il y a une évolution de ces questions? Par exemple, en France, il y a eu cette affaire assez grosse de la Ligue du LOL l'année dernière. Il y a eu le cas de Nadia Dame aussi, où on a vu quand même des femmes prendre la parole, raconter leurs expériences. On a vu des sanctions aussi. Ça, c'était des gestes forts. Est-ce que vous pensez qu'il y a une évolution?
J'en sais rien. J'en sais trop rien. Je pense qu'il y a une petite évolution dans la manière dont nous les femmes et les cibles, on peut partager notre expérience avec d'autres. Parce que à mon époque, on vivait ça dans notre coin, sans oser en parler, sans oser le partager. On pensait toute seule. Et quand on me disait « ça n'arrive qu'à toi », finalement, on le croyait. Et on croyait qu'on l'avait effectivement quelque part bien cherché. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est pas un fait divers, en fait, le harcèlement misogyne sur Internet. C'est un phénomène de société et qu'à toutes, on nous a dit « ça n'arrive qu'à toi ». Et quelque part, c'est un soulagement. Pour celles qui doivent traverser ce genre de raid aujourd'hui, le fait de savoir que c'est systémique et qu'on s'attaque à elles, pas parce qu'elles sont elles, mais pour ce qu'elles représentent, c'est-à-dire des femmes qui parlent et qui ne sont pas juste des poupées
silencieuses. Oui, mais qui parfois expriment un point de vue. Vous me parliez avant l'émission d'une journaliste belge qui subissait un raid actuellement parce qu'elle avait écrit une critique féministe du dernier Tarantino. Quoi. Ouais.
Mais je crois que l'époque est quand même très hostile aux féministes. Même si le féminisme est partout maintenant qu'il est à la mode, il y a des choses que moi, j'oserais plus dire publiquement aujourd'hui, des choses féministes que j'aurais tout à fait osé dire avant, parce que ça suscite une rage et une violence telle de la part de certains qui sentent manifestement le vent froid de l'hiver souffler dans leur nuque. Mais ouais, je trouve que l'époque est très, très hostile à la parole féministe.
Vous avez gardé des séquelles, c'est-à-dire ça vous a réduit dans dans la rue, dans l'espace social, vous êtes partie des réseaux sociaux de Twitter, Facebook, vous avez quitté.
Ah, mais ça, c'est très récent. Ouais. J'ai quitté Twitter et Facebook, pas parce que j'étais victime d'un raid ou de harcèlement ou quoi que ce soit, mais parce que par lassitude, en fait, par lassitude d'entendre et de voir des choses que j'avais pas envie d'entendre et de voir, et notamment des choses de l'ordre du sexisme. Mais ouais, je me suis fait tout petite pendant vraiment longtemps. Même physiquement. Ça fait vraiment pas très longtemps que je sors dans la rue sans regarder mes pieds et avec une relative insouciance. Mmh. Mais oui, le but de tout ça, c'est de réduire les femmes au silence et c'est de les réduire tout court, c'est de les faire disparaître. Et hélas, ça marche sur beaucoup, quoi. Il y a quand même énormément de nanas qui ont déserté Twitter, qui ont déserté les réseaux sociaux, énormément de féministes. Il y a toujours des paroles féministes sur les réseaux sociaux, mais les grandes têtes de proue, elles se sont barrées.
Mais il y a aussi une parole qui s'exprime de plus en plus. Alors il y a aussi peut-être, est-ce qu'on est bientôt dans un changement de paradigme ? Est-ce que la société évolue ?
On est j'aimerais bien, mais je suis pas Madame Irma. Je sais qu'après chaque avancée sociale, il y a toujours un phénomène de backlash et on fait quelques pas en arrière. Moi, je pense dès MeToo, on a fait 3 pas en avant, puis on en a reculé 2. Le dévoilement du scandale de la Ligue du LOL nous a permis de réavancer de 1,5, mais le backlash qui a suivi nous a fait reculer de 1. Donc voilà, c'est des tout petits pas. On a l'impression que c'est des grands pas, mais en fait, comme ils sont toujours suivis d'un recul, et parce que toutes ces paroles et toutes ces libérations et toutes ces avancées sociales sont des clous qui appellent le marteau, et il y a beaucoup de marteaux qui ont envie de taper dessus, et donc voilà, ces gens, on se fait taper dessus, mais on continue à avancer. You were my sun, you were my earth, you didn't know all the ways I loved you, no, so you took a chance, made of a plan, but I bet you didn't think that they would come crashing down, no, you don't have to say what you did. Don't it make you sad about it? Told me you love me. Why did you leave me all alone? Now you tell me you need me. When you call me on the phone, girl, I refuse. You must have me confused with some other guy. Your bridges go burn. Now it's your turn to cry. Said. It wasn't like you only talk to him and you know it.
Don't act like you don't know it.
And all of these things people told me keep messing with my head. Should have picked honesty, then you may not have thought it.
Don't have to say
what you did.
I already know.
I
found out from him. Now there's just no chance.
No chance.
You and me.
You and me.
There'll never be.
Don't it make you sad about it? Tell me you love me. Why did you leave me all alone? All alone. Tell me you need me. Can you call me on the phone?
Call me on the phone.
Girl, I refuse. You must have me confused with some other guy.
Not like them, baby.
The bridges go burn. Now it's your turn.
It's your turn
to cry.
So tell me a rhythm.
Tell me a rhythm.
Go on and just
tell me a rhythm.
Baby, go on and just
tell me a rhythm.
Dans le genre de
Myriam Leroy, quel rapport vous entretenez avec votre physique?
Vraiment, ça dépend des jours, ça dépend des heures, ça dépend des moments de mon cycle. Ouais, vachement. Et globalement, je m'intéresse assez peu à mon physique. Ouais, ça m'intéresse assez peu. Je ne suis pas à la mode, j'achète très peu de vêtements, je n'ai pas beaucoup de besoins. Je me maquille très vite. Et je ne suis pas quelqu'un de sophistiqué, même si c'est l'image que je pense que je renvoie à beaucoup de gens. Ils me croient féminine, très, très sophistiquée. Et en fait, je m'habille avec ce qui me va et je me maquille avec ce qui me va. Et c'est pas, ça ne m'intéresse pas tellement, en fait.
Qu'est-ce que vous mettez en avant pour séduire?
Je pense que ce que je mets en avant, c'est un contraste. Bon, j'y ai réfléchi, hein. C'est quelque chose qui m'est naturel, mais j'y ai réfléchi.
Pour venir ici, ouais.
Je mets en avant un contraste entre je correspond physiquement à certains stéréotypes du féminin, hein. Je mets des robes, je me maquille, je me coiffe, je bats des cils. Et le contraste entre ça et une forme de provoque un peu trash dans l'humour à laquelle la personne en face s'attend pas forcément. Et j'aime bien déstabiliser la personne que j'ai en face de moi avec ce contraste. C'est ça, je pense. Mais c'est qui tout double, hein. Ça peut complètement les dégoûter aussi. Mais ceux que ça intéresse, ça les intéresse vraiment.
Qu'est-ce qui vous plaît chez un homme ?
Son odeur. Oui, l'odeur des hommes, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Son odeur... La force tranquille qu'un homme peut exhaler, ça me plaît vachement. J'aime bien les grands. En fait, j'aime bien ceux qui surjouent aussi les codes de la virilité.
Ah ouais.
Ouais, j'aime bien les mauvais garçons.
Mais qui les surjouent un peu de manière théâtrale aussi. En étant pas dupes ou qui les surjouent très premier.
Non, j'aime bien ceux qui sont vraiment naturellement dans l'hyper virilité. J'aime bien les rappeurs, par exemple.
Ah ouais.
Ouais. Les mecs en training, j'adore. Et ouais, les ceux qui ont l'air de mauvais garçons, pour autant qu'ils aient quelque chose d'autre à offrir et une sensibilité, et aussi un contraste. C'est ça que je cherche, en fait, c'est le contraste.
Est-ce que vous auriez aimé être un homme, vous ?
Ouais, vachement, ouais.
Pourquoi ?
Parce que c'est beaucoup plus fun d'être un homme, je crois. Ceci dit, bon, je me plains souvent d'être une femme. J'ai pas l'intention de changer de genre. Je suis pas du tout dans ce type de.
Parce que comme ça m'intéresse
pas, comme le genre, enfin, à la fois m'intéresse comme champ d'investigation, mais que moi-même, ça me fait chier qu'on me renvoie à mon genre. Je vais pas aller chercher un autre genre. Enfin, mais j'aurais bien aimé être un homme pour toute une série de raisons, pour la liberté que ça confère d'être un homme. Mais une fille à qui j'en parlais récemment me disait, ouais, bah c'est clair que c'est plus dur d'être une fille, mais c'est quand même vachement plus intéressant. Et en fait, ouais, c'est vrai. Et j'y avais jamais réfléchi comme ça. Il y a beaucoup de choses merdiques, mais au moins, elles sont nourrissantes intellectuellement. Elles ouvrent un champ des possibles.
Vous seriez quel type d'homme ?
Je serais super viril.
Ah ouais ?
Ouais, je serais en training, je mettrais des chaînes en or. Je crois que je serais un homme très viril. J'aimerais bien ça.
Est-ce que vous auriez aimé être une femme très différente de celle que vous êtes?
J'ai longtemps voulu être Beyoncé.
C'est-à-dire?
Une assurance. Une assurance, quoi. Un socle, être ancré, avoir les deux pieds bien
très
sur
physique.
Terre. Ouais, être quelqu'un de très physique.
Les cuisses.
Ouais. Bon, ça, les cuisses, je les ai. Mais quelqu'un comme Beyoncé qui ne s'excuse pas d'exister, qui prend la place, quelqu'un de très vocal. Et puis, ça fait quelques années que de plus en plus, j'accepte celle que je suis. Je suis pas du tout Beyoncé. Je suis beaucoup plus discrète que ça, beaucoup plus sinistre que ça, beaucoup moins insouciante, beaucoup moins ambitieuse. Et je crois que j'aime bien celle que je suis aujourd'hui.
C'est la fin de cette émission. Elle a été réalisée par Benoît Thuot. Nous, on se retrouve dans 15 jours avec un nouvel invité. D'ici là, soyez unique en votre genre. Bonne soirée sur Nova.
Dans le genre.
Dans le genre.
Une émission à retrouver en podcast sur nova.fr.